Aujourd'hui, Claude Lajarige, et je dis chers confrères, car vous êtes aussi président d'une université qui ne porte pas le même nom que nous, mais qui a les mêmes objectifs et qui s'appelle...
Qui s'appelle à Lens, ça s'appelle l'APEL, A2PEL, l'Association pour le plaisir d'étudier à Lens. Ouais. Car on étudie toujours avec plaisir.
Eh bien, merci. Nous partageons nos connaissances et prenons plaisir ensemble à les partager. Vous avez le sens de l'amitié, car vous avez commencé votre carrière, docteur, ici, en 81. Vous nous avez quittés en 86 et depuis, régulièrement, vous venez retrouver vos amis et depuis quelque temps, eh bien, nous régaler de conférences très intéressantes. Vous et votre épouse, bien sûr, Michel, qui, si vous vous souvenez, nous avez fait une conférence sur Alexandre Dumas. Alors, de façon prémonitoire, en 2019, vous avez évoqué une grande pandémie, la peste. J'avais dit, ça y est, il va nous faire le Covid la prochaine fois. Eh bien, non. Maintenant, vous allez nous emmener plus de 1000 ans en arrière pour nous montrer que pendant le Haut Moyen-Âge, que nous appelons le Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire un peu avant l'an 1000 et juste après l'an 1000, on pouvait rencontrer des hommes cultivés, des scientifiques, même quasiment des mathématiciens, un humaniste avant l'heure. Le mot humanisme a été très utilisé, nous le savons, très utilisé, nous le savons, mais vous dites que c'est un humaniste avant l'heure, et ce fut un pape. Docteur, vous allez nous plonger dans ces temps anciens, qu'on a parfois qualifiés d'obscurantistes, vous allez nous prouver le contraire, et nous sommes heureux de vous écouter.
Merci. Oui, là, le réglage se fait. Donc, Gerbert d'Aurillac, qui fut pape sous le nom de Sylvestre II, il est né aux alentours de 945, on ne connaît pas sa date de naissance exacte, on ne connaît même pas exactement son année de naissance. Par contre, on sait qu'il est mort en 1003, et même la date précise qui sont dans les archives du Vatican, puisqu'il était pape. Alors, c'était un humaniste du Moyen-Âge, un humaniste avant l'heure. Donc, la politique est formée sur l'honnête et l'utile, disait Gerbert d'Aurillac. C'est une formule qui, bien sûr, est tout à fait d'actualité. Alors Pierre Richer, qui est un historien qui a vécu de 1921 jusqu'en 2019, il est décédé récemment, dans son livre « Gerbert d'Aurillac, le pape de l'an 1000 », pose la question « Qui est Gerbert ? Le premier pape français, le pape de l'an 1000, le magicien tel que le rapportaient les légendes du XIIIe siècle ?» Gerbert, l'âme livrée aux sombres aventures, dit Victor Hugo dans La Légende des siècles, c'est un vers d'ailleurs de La Légende des siècles. Le paysan, le petit paysan serait devenu pape avec l'appui du diable, disait-on. Il aurait appris les arts magiques et l'astrologie chez les Arabes à Séville. Or, il n'a jamais été à Séville, ni même à Cordoue, qui était d'ailleurs la capitale du califat arabe en Espagne. Alors oui, oui, il connaissait les chiffres arabes. Alors, un pape catholique romain utilisait les chiffres des infidèles, n'était-ce pas une hérésie ? La légende avait prédit qu'il décéderait après avoir célébré la messe à Jérusalem. Il n'alla jamais à Jérusalem. Cependant, c'est lors d'un office à Rome, à l'église Sainte-Croix de Jérusalem, qu'il présentera un malaise et décédera quelques jours plus tard en 1003. La légende avait raison. En 1648, lors de la reconstruction de la basilique Saint-Jean du Latran, on ouvrira son tombeau pour vérifier sa réputation de magicien. À peine exposé à l'air, dit la légende, le cadavre bien conservé se réduisit en cendres. Et que dire de la prédiction de Jean, diacre de Saint-Jean du Latran à la fin du XIIe siècle, quand son tombeau suinte et laisse échapper des gouttes d'eau, cela annonce la mort d'un pape. Plus près de nous, le 13 mai 1981, après la tentative d'assassinat de Jean-Paul II, des fidèles romains se rendirent à Saint-Jean du Latran. Ils furent rassurés, le tombeau ne suintait pas. Le pape allait vivre, la légende persistait. Gerbert de Riac, nous allons le voir, fut en vérité un homme d'église, un homme d'une grande culture, un mathématicien de génie et un homme politique. L'homme le plus cultivé de son temps, a dit Jean-Paul II le 10 mai 2003, en recevant une délégation du diocèse de Saint-Flour. Aujourd'hui, quelques rues portent son nom. À Paris, dans le 15e arrondissement, il y a une rue, un square que vous voyez un petit peu au bout, il est sur le côté de l'église, et une école maternelle. À Reims, où il fut écolâtre, puis évêque, une rue. Il y a également une rue également à Clermont-Ferrand. À Saint-Simon, son village natal, près d'Aurillac, on trouve une promenade Gerbert et un chemin du puits Gerbert. À Boulogne-Billancourt, on trouve une école catholique primaire Montessori. Et enfin, bien entendu, à Aurillac, une place avec la statue que l'on doit à David d'Angers et un ensemble scolaire privé sous contrat que vous voyez à droite. Entrons maintenant dans la vie de Gerbert d'Aurillac. Je vous propose le plan suivant. D'abord, quelles sont les sources écrites? Ensuite, un bref rappel historique sur la situation de la France occidentale et de l'Empire en l'an 1000 avec les principales dynasties régnantes. Ensuite, je déroulerai dans l'ordre chronologique Gerbert en Aquitaine, Gerbert en Catalogne, le premier séjour à Rome, Gerbert écolâtre de Reims, Gerbert abbé de Bobbio, Gerbert homme politique, Gerbert et l'archevêché de Reims, Gerbert exilé dans l'Empire, Sylvestre II, pape. Je parlerai bien sûr Gerbert et Sylvestre II, vous avez bien compris qu'il s'agissait de la même personne. Et enfin, en conclusion, qui fut Gerbert? Alors, les sources écrites, eh bien, on en a beaucoup. Alors qu'il y a des hommes du Moyen-Âge, donc on n'a quasiment aucune source écrite. Par exemple, Clovis, on ne sait pas du tout à quel moment il a été baptisé. Tandis que là, on a de nombreuses sources écrites. On a effectivement 220 lettres qu'il a écrites et qui couvrent 16 ans de sa vie, réunies dans un corpus, conservé dans un manuscrit écrit peu après sa mort. Nous ne savons pas d'ailleurs qui a constitué ce corpus épistolaire. Il y manque quelques lettres écrites entre 984 et 987, qui sont des lettres pouvant être compromettantes quand il a pris position contre les derniers carolingiens. Le manuscrit avait été déposé au monastère Saint-Mémin de Missy, près d'Orléans. Là, vous avez la croix où était jadis l'ancien monastère, puisque à droite, c'est le nouveau monastère qu'il y a actuellement. Et tout ce manuscrit a été redécouvert par des humanistes protestants et gallicans, et il se trouve actuellement aux Pays-Bas, à Leyde. Outre ces sources écrites, dans ces sources écrites, les lettres, ces 220 lettres, nous avons bien sûr toutes les bulles papales de 999 à 1003. Nous avons ses œuvres philosophiques et scientifiques, car il a écrit des œuvres philosophiques et il a écrit des œuvres scientifiques, essentiellement de mathématiques. Et puis nous avons les témoignages écrits de Richer et de Saint-Rémy de Reims, qui étaient son biographe. Alors là, bien sûr, c'est hagiographique, mais enfin, on est bien obligé d'en tenir compte. Alors, la France et l'Empire en l'an 1000, comment les choses se situaient? Il faut remonter pour cela au traité de Verdun de 843, où l'Empire de Louis Ier le Pieux, qui est décédé 3 ans auparavant en 840, Louis Ier le Pieux, c'était le fils de Charlemagne, son empire va être donc partagé en 3 royaumes. Vous avez bien sûr, vous le voyez bien, vous avez à l'ouest la France, ou Francie occidentale, pour Charles le Chauve. Vous avez au centre la Lotharingie, pour Lothaire, Lotharingie, Lorraine, tout ça c'est la même origine étymologique. Et à l'est, vous avez la Germanie, pour Louis le Germanique. Certains rois vont porter le titre d'empereur. Pour la période qui nous intéresse, entre 950 et l'an 1000, il va ne subsister qu'un royaume de France à l'ouest, je ne l'ai pas mis en totalité, mais il est ici, et un Saint-Empire romain germanique à l'est avec un empereur. Il n'y a plus de Lotharingie. Qu'en est-il des dynasties régnantes ? Peut-être que vous avez du mal à voir, mais je vais le commenter. Vous avez au centre les Ottoniens, qui sont les empereurs du Saint-Empire romain germanique. Il y aura successivement Otton I, ici, Otton II et Otton III, qui vont régner sur le Saint-Empire romain germanique. Gerbert connaîtra personnellement les trois empereurs successifs, et il fera l'éducation en particulier d'Otton III. En France, les rois seront soit des Carolingiens, soit des Robertiens. Hugues Capet est un Robertien, c'est le dernier des Robertiens, après on les appelle les Capétiens, donc vous l'avez bien compris. Il y aura bien sûr, pour simplifier les choses, des unions entre ces trois dynasties. Alors en France, après deux Carolingiens, Louis II le Bègue et Louis III, vont régner alternativement Eudes, un Robertien, puis à nouveau Charles le Simple, un Carolingien, qui sera déposé par Robert Ier, qui est un Robertien. Après Robert Ier, vous en avez une personne qui ne figure pas, Raoul, un Robertien, qui par rapport à Robert Ier que j'ai perdu, qui était son gendre, hein, puisque c'était le mari de la fille de Robert Ier. Et ensuite, nous retrouvons à nouveau un Carolingien, qui est Louis IV d'Outre-mer, appelé ainsi car il était resté longtemps en exil en Angleterre. Bon, à Laon, où j'habite, on le connaît très bien, car il a été sacré à Laon le 19 juin 936. Va lui succéder un personnage très important, qui est Lothair, qui se trouve ici. Donc, son fils Lothair, on va en parler assez longuement. La couronne passera après à son fils Louis V, qui va très rapidement décéder. Elle va passer ensuite à un Robertien qui est Hugues Capet. Hugues Capet, qui est le petit-fils de Robert Ier. Entre-temps, il y a eu Hugues le Grand, duc des Francs. Alors n'oublions pas deux autres personnes des familles régnantes qui auront un rôle dans les querelles successoriales. D'abord, nous avons Charles de Lorraine, qui est le frère de Lothaire. Si on avait été à l'époque, j'allais dire, de la loi salique, et bien entendu, Charles de Lorraine aurait succédé, serait devenu roi des Francs. Mais on va choisir, et ça vous le savez, on va choisir Hugues Capet. Non, il faut mentionner quand même, pardon, il faut mentionner, voilà, Charles, il faut mentionner Charles de Lorraine. Et une autre personne qui est importante, c'est Arnoul de Reims, qui est ici. Arnoul de Reims, qui sera le rival de Gerbert pour l'archevêché de Reims, lui, c'est un fils bâtard du roi Lothaire. Lothaire a eu Louis V avec son épouse Emma, et il a eu Arnoul de Reims avec une autre femme qui n'était pas sa femme légitime. Alors, pour terminer ce chapitre, sachez que, je vais simplifier certaines choses, que Lothaire et Hugues Capet sont cousins. Leurs mères respectives sont des sœurs de l'empereur Otton Ier. Donc Gerbert d'Aurillac va être un personnage influent, ayant joué un rôle important dans le changement de dynastie au niveau du royaume de France. Faisons donc maintenant connaissance avec lui, donc Gerbert en Aquitaine. Nous ne connaissons pas son année de naissance. Pour le Larousse, c'est 938. Pour Wikipédia, 946. Pour la majorité des historiens, entre 945 et 950, pendant le règne de Louis IV d'Outre-mer. Lorsque je citerai son âge, lorsque je vais dire il a 40 ans, il a 35 ans, il a 25 ans, je partirai de 945, mais je n'en suis bien entendu pas sûr. Comme on l'a dit, était-il fils de pâtre ? Nous l'ignorons. En tout cas, il n'était pas d'origine aristocratique. Il naît près d'Aurillac, au hameau de Belliac, sur la commune de Saint-Simon, qui est aujourd'hui une commune de 1127 habitants. Ses parents lui donnent comme nom de baptême Gerbert, qui vient du proto-germanique Ger, qui est la lance, l'épée, Bert, ça veut dire brillant, illustre. On ne connaît rien de sa vie et il n'en a pas parlé jusqu'à l'âge de 12 ans. Vers l'âge de 12 ans, il est confié par ses parents aux moines de l'abbaye Saint-Géraud d'Aurillac comme oblat. Un enfant oblat, c'est un enfant qui est offert par ses parents à un monastère pour son éducation et pour le service de Dieu. Peut-être ses parents s'étaient-ils rendus compte qu'il avait de grandes connaissances intellectuelles et qu'il s'était dit, mais ça j'en sais rien, que là il allait sûrement devenir quelqu'un d'important. Voilà pourquoi il va rentrer à l'âge de 12 ans au monastère Saint-Géraud d'Aurillac. Cette abbaye qui suit la règle de Saint-Benoît a pour abbé Raymond de Lavaur, avec lequel Gerbert correspondra toute sa vie. Et d'ailleurs, Raymond de Lavaur, qui est plus âgé, bien entendu, que Gerbert, mourra après lui. Donc, durant toute la vie de Gerbert, ils vont correspondre. Gerbert va donc apprendre à lire, écrire, connaître la grammaire latine et chanter. Il va étudier les auteurs religieux et profanes. L'Aquitaine, dont il dépend, garde plus les marques de la culture romaine que les régions franques du Nord. Après Raymond de Lavaur, la seconde rencontre importante qu'il fait, c'est avec le comte catalan, c'était Saint-Géraud, Borel II de Barcelone. Celui-ci est un fidèle du roi carolingien et gouverne la marche hispanique. Donc là, vous voyez, le royaume de France et là, le comté de Barcelone, qui fait un peu la jonction, qui est la zone tampon qu'il y a entre le grand califat de Cordoue et puis le royaume chrétien plus au nord. Donc Borel II, c'est un fidèle du roi carolingien, et le plus souvent, les princes catalans vont chercher leur épouse en Aquitaine. Ainsi donc, en 967, Gerbert a environ 22 ans, Borel II vient épouser l'Edgarde de Rouergue. Il s'arrête à Aurillac pour vénérer les reliques de Saint-Géraud. Gerbert est probablement déjà un élément brillant. Raymond de Lavaur, l'abbé, va convaincre Borel II d'emmener Gerbert étudier les sciences, car la Catalogne côtoie et subit les influences musulmanes. La réputation scientifique du califat de Cordoue est bien connue. La règle de stabilité du moine Gerbert, quand il rentre, il doit rester dans le monastère, va donc être suspendue. Mais bien entendu, il était prévu qu'il revienne à Aurillac comme écolâtre. Il n'y reviendra jamais. Le destin va, vous allez le voir, en décider autrement. Alors Gerbert en Catalogne. En Catalogne, il est confié à Hatton, H-A-2-T-O-N, l'évêque de Vic, vous voyez la ville de Vic aujourd'hui, féru en mathématiques. Il va travailler à Vic et au monastère Santa Maria de Ripoll, que vous avez, ce n'est pas le monastère de l'époque, c'est le monastère actuel, bien entendu, qui est distant de 20 kilomètres. Il va donc être en contact avec des manuscrits et des savants arabes du califat de Cordoue. Adhémar de Chabannes, qui est un chroniqueur du XIe siècle, qui est né en 989 en Limousin, affirme que Gerbert a été à Cordoue. Cela est repris par de nombreux écrits, et aujourd'hui sur le net. Comme je vous l'ai dit, nous savons qu'il n'a jamais été à Cordoue. Alors en Catalogne, il va poursuivre l'étude du trivium. Le trivium, c'est donc grammaire, rhétorique et dialectique. Et bien sûr, pour étudier la grammaire, la rhétorique, la dialectique, eh bien, on prend les œuvres de littérature et les œuvres de philosophie. Il va d'ailleurs perfectionner ses connaissances de Virgile, Aristote, Porphyre de Tyre, Cicéron et surtout Bosse, qui a vécu de 480 à 524, qui fut homme politique, philosophe et poète latin. Surtout, il va approfondir le quadrivium, arithmétique, géométrique, astronomie, et musique, qui fait partie du quadrivium. Il va alors découvrir la numérotation de position sans le zéro. Il connaissait déjà l'art des Arabes et il va donc découvrir les chiffres indo-arabes. Tout devient alors simple pour Gerber pour faire des opérations de multiplication et de division qui sont impossibles, bien sûr, avec les chiffres romains. Pour mémoire, les chiffres indiens arrivent à Bagdad en 773, peut-être dès 662. Ils se nomment, on les nomme Etka, Dvi, Tri, Katur, Panka, Sat, Satta, Asta, Nava. Le zéro existait sous forme d'un petit rond ou d'un petit point, semble-t-il, depuis 684. Ce point qui deviendra le zéro est nommé Sunya. Sunya, ça veut dire absence, vide. Sur le plan étymologique, à partir de Sunya, ça va devenir Asif et puis chiffre. Toujours à partir de Sunya, Zifer, Zéphiro, zéro. Ainsi donc, les mots chiffre et zéro ont la même origine étymologique. Les Arabes adoptent ces chiffres qu'ils appellent chiffres indiens, et on les retrouve dans le Codex Vigilanus en 975, qui a été écrit au monastère Saint-Martin d'Abelda, dont vous avez ici uniquement la partie troglodyte qui, un petit peu troglodyte qui reste en l'état, mais il y avait un monastère, bien sûr, beaucoup plus important sur le devant. En Occident, on va les appeler les chiffres arabes. Vous les voyez écrits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je lis bien sûr de gauche à droite, hein, comme le font les, de droite à gauche, pardon, comme font les arabes. Peut-être Gerber fut-il un des premiers à les appeler ainsi. Pour le changement de décimale, en Occident, Gerber laisse un vide. Vous voyez ici le 2, le vide, c'est l'équivalent du 0, le 6, le 1, le 5, le 9, tel qu'ils étaient écrits à l'époque. Et pour 7082, le 7, le vide, le 8 et le 2. Et je fais ainsi facilement une addition, ce qui ne peut pas être fait avec des chiffres romains. Donc, pour le changement de décimale, je l'ai dit en Occident, Gerber laisse un vide. Plus tard, un écolâtre de Lan, Raoul de Lan, qui a vécu de 1060 à 1133, utilisera un point. Enfin, c'est Leonardo Fibonacci, qu'on appelle aussi Léonard de Pise, qui utilisera couramment le zéro dans son Liber Abaci en 1202. Donc il a fallu en gros 200 ans pour passer du vide, le démarrage de l'utilisation des chiffres arabes, à l'utilisation du zéro. Le zéro, bien sûr, c'est une absence de chiffre, ce n'est pas un chiffre en tant que tel. Donc la bague de Gerber va systématiser la numérotation de positions. Gerber va aussi travailler la musique, qui fait partie du quadrivium. Le monastère de Ripoll, qui abrite une école musicale, utilise les signes pneumatiques byzantins depuis le IXe siècle, qui deviendront des notes à la fin du Xe siècle. En astronomie, Gerber d'Aurillac va travailler les tables astronomiques et avoir une parfaite connaissance de l'astrolabe qui calcule la hauteur des astres. Les travaux des Arabes sur l'astrolabe, la sphère céleste et le cadran leur permettaient en effet de bien connaître les heures et de s'orienter parfaitement vers la Mecque lors des 5 prières quotidiennes. Gerber lira les écrits de Maslama al-Mayrit, ou plus simplement pour nous Maslama de Madrid, qui vécut de 950 à 1007, qui était maître des mathématiques d'Al-Andalus et connaisseur de la fabrication des outils astronomiques. Et Maslama al-Mayrit, comme vous le voyez, pardon, je reviens en arrière. Voilà, il a une place à Madrid que vous voyez derrière moi. Enfin, en horlogerie, Gerber va travailler sur le balancier circulaire à échappement, dont il est peut-être un des inventeurs. Vous voyez déjà l'importance et toutes les connaissances et tout ce que faisait ce personnage. Alors maintenant, de 970 à 972, cela va être son premier séjour à Rome. En 970, Gerber a 25 ans. L'évêché catalan de Vic ne veut plus dépendre de l'archevêque de Narbonne. Vous savez, il y a un archevêque et puis en plus une dizaine d'évêchés aux alentours. Il veut avoir son autonomie. Donc pour devenir une métropole et avoir un archevêque, eh bien il faut l'accord du pape Jean XIII. Trois personnes vont donc faire le déplacement à Rome. Bien sûr, le comte Borel II, l'évêque de Vic Aton, et puis ils sont accompagnés de Gerbert d'Aurillac qui suit un petit peu le mouvement. Ce dernier va donc rencontrer au palais du Latran le pape et l'empereur de Germanie Otton Ier, qui d'ailleurs avait appuyé la candidature de Jean XIII à la papauté. Il va rencontrer aussi Otton II, le fils d'Otton Ier, que l'empereur avait fait couronner à l'âge de 12 ans par le pape en 966. Vic va donc être élevé au rang de métropole et Aton nommé archevêque. Malheureusement, quelques mois plus tard, alors qu'ils étaient encore à Rome, Aton est assassiné dans des circonstances mal élucidées le 22 août 971. Donc Borel II va revenir en Catalogne et Gerbert, eh bien, va se retrouver seul à Rome. L'empereur Otton Ier va donc demander à Gerbert d'être le précepteur de son fils Otton II, âgé de 16 ans, car il s'était rendu compte que c'était un esprit curieux qui aimait les livres. Donc Gerbert va accepter et il va être le précepteur d'Otton II. Alors Gerbert d'Aurillac, il est présent à Rome le 14 avril 972, le jour de Pâques, lors du mariage d'Otton II, qui était âgé de 17 ans, avec Teofano Schereina, qui a vécu de 960 à 991, qui était une princesse byzantine de 12 ans. Le pape Jean XIII va la couronner impératrice. Gerbert est alors très apprécié et le sera toujours d'Otton Ier, de la femme d'Otton Ier dont on reparlera, Adélaïde de Bourgogne, de leur fils Otton II et de l'épouse d'Otton II, la jeune Théophano. À ce mariage était présent Géranus, qui était l'archidiacre de Reims, qui représentait son archevêque Adalbéron et le roi de France Lothaire. L'archevêque de Reims était quasiment à cette époque-là le deuxième personnage de l'État. Donc pour ce couronnement, eh bien, Lothaire et Adalbéron avaient envoyé Géranus. Comme les Ottons allaient regagner la Germanie, à l'époque, les empereurs circulaient, ils n'étaient pas fixes quelque part, comme les rois de France. Assez souvent, son palais était près de Magdebourg, mais il allait aussi à Rome, il allait aussi à Ravenne, il circulait pas mal. Donc, comme les Ottons allaient regagner la Germanie, et que Géranus avait découvert les grandes connaissances de Gerbert dans le Quadrivium, il décide de revenir à Reims avec Gerbert d'Aurillac pour qu'Adalbéron le prenne comme écolate. Vous savez, un écolate, c'est celui qui est le maître des écoles monastiques ou des écoles de l'évêché. Donc, le parcours de Gerbert d'Aurillac va se poursuivre. Il a alors aux environs de 27 ans. Alors, Gerbert, écolâtre de Reims. Gerbert arrive donc à Reims en mai 972. L'archevêché de Reims couvre 10 évêchés, Senlis, Soissons, Beauvais, Amiens, Thérouanne, qui est une ville aujourd'hui du Pas-de-Calais de 1100 habitants, Tournai, qui est aujourd'hui en Belgique, Noyon, Laon, Chalon et Cambrai. Cambrai est terre d'empire, mais fait partie de l'archiépiscopat de Reims. Vous voyez, Cambrai est ici, mais l'archiépiscopat de Reims englobe Cambrai, tout simplement parce que Cambrai était déjà dans l'archiépiscopat de Reims avant le traité de Verdun, qui a partagé l'empire de Charlemagne en trois. Adalbéron, l'archevêque, est d'origine lorraine. C'est un réformateur. Il est archevêque depuis 969. En 972, il va fonder une abbaye qui est l'abbaye bénédictine de Mouzon, et il va beaucoup transformer l'intérieur de la cathédrale de Reims. Alors vous avez sur la photo de droite l'église Saint-Pantaléon de Cologne, telle qu'elle est actuellement, telle qu'elle était à l'époque, et je vous la présente car la cathédrale de Reims avait à peu près à cette époque, elle avait cet aspect-là et pas l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui qui date du début du XIIIe siècle. Après le décès de Géranus, Gerbert Écolâtre va donc enseigner à Reims les arts du trivium et du quadrivium. Il se sent libre après les décès du pape Jean XIII et de l'empereur Otton Ier. Son enseignement, de 972 à 980, puis on y reviendra de 984 à 989, sera renommé. Parmi ses élèves, on va en citer deux, Richer de Saint-Rémy, cet élève important qui sera d'ailleurs son biographe, et puis le fils du Capet, le futur roi Robert II le Pieux. Alors, dans ses études, qu'est-ce qu'il faisait étudier à ses élèves? Il étudiait tous les classiques, en mêlant les trois disciplines du trivium. La logique est un tout, disait-il. Il étudie beaucoup Virgile, Terence, Juvénal, Horace, Lucain, César, Tite-Live, Salluste. Il étudie beaucoup la rhétorique avec les différentes étapes, l'exorde, l'introduction, la narration, l'argumentation, la réfutation, la péroraison, et pour cela il utilise beaucoup les écrits de Cicéron. La dialectique et la philosophie, connaissance de Bosse, il exerçait ses élèves à la controverse. Il étudiait Platon et Aristote. Dans le quadrivium, il enseignait l'arithmétique. Son abaque utilisait 27 compartiments pour 9 chiffres arabes, multipliés par 3 colonnes pour les unités, les dizaines et les centaines. En astronomie, il fut aussi un des premiers à utiliser le Nocturlab pour montrer à ses élèves la nuit les étoiles. Il les réveillait la nuit, d'ailleurs. Le Nocturlab est une sorte d'horloge de nuit. Il va intervenir en 978 pour la première fois en politique. Il va intervenir dans les affaires de Lorraine avec son évêque, Adalbéron. Ce sera sa première implication politique. En effet, Lothaire voulait récupérer la Lorraine et Hugues Capet se mit alors à son service. Or, Adalbéron était un lotharingien. Il était le vassal de Lothaire, mais il approuvait la politique de l'empereur. Ils vont donc mener, lui, Adalbéron et Gerbert, un difficile double jeu. Heureusement, en juillet 980, Lothaire et l'empereur Otton II se réconcilient lors de l'entrevue de Margut sur Chiers, qui est près de Mouson, aujourd'hui dans les Ardennes, et Hugues Capet va alors se rapprocher d'Otton II. Gerbert d'Aurillac a alors 35 ans. Gerbert abbé de Bobbio. Fin 980, Otton II se rend en Italie pour soutenir la prise de fonction du pape Benoît VII qui était rejeté par une partie de la noblesse romaine. Il arrive à Paris en décembre 980 avec sa femme Théophano et leur très jeune enfant Otton III âgé de 6 mois. Il y retrouve Adalbéron et Gerbert et tout le monde passe le Noël à Ravenne. Gerbert était alors en dispute philosophique avec Autric, qui était écolâtre de Magdebourg, sur la classification des connaissances. Je vous passe tous les détails. Lors de la disputatio, comme on dit, ou de la controverse, il va sortir vainqueur de la controverse de Ravenne. À partir de cette date, Gerbert va garder le double des lettres qu'il envoyait, parce que Autric avait dit « Gerbert a dit ceci, Gerbert a écrit cela, ce qui était faux ». À partir de cette époque, chaque fois que Gerbert écrit, il garde le double des lettres. Comme Otton II désirait libérer les monastères italiens de l'emprise de l'aristocratie, il nomme Gerbert d'Aurillac abbé de Bobbio. Par ce titre d'abbé de Bobbio, il devient également comte et doit donc des troupes à l'empereur en cas de conflit. Gerbert trouve à Bobbio en 982 l'une des plus riches bibliothèques d'Occident, comprenant plus de 650 manuscrits, des œuvres des pères de l'Église, la vie des vies de saints, des collections canoniques, des traités de grammaire, de rhétorique, de dialectique, de métrique, toutes les œuvres de Cicéron et de Bosse. Il abandonne alors sa fonction d'écolâtre pour celle d'abbé. Il semble qu'il ait participé aussi à la construction d'un orgue. Cependant, Gerbert avait du mal à appliquer la réforme clunisienne. Effectivement, celle-ci enlevait la nomination des abbés aux grands seigneurs laïcs et plaçait les abbayes directement sous l'autorité directe du pape. Or, Otton II ne pouvait trop léser les aristocrates qui lui fournissaient une aide militaire. Alors, dans sa correspondance, Gerbert a toujours été très direct. Je vais citer la lettre 5 qu'il écrit à Pierre Canevopana, évêque de Pavie. Vous réclamez des conversations entre nous et vous ne cessez de piller notre église. Vous partagez nos biens entre vos chevaliers comme s'ils étaient votre propriété, alors que vous auriez dû reconstituer en un tout ce qui avait été partagé. Vous volez, vous pillez, vous soulevez contre nous les forces de l'Italie. Il n'emploie pas du tout la langue de bois. En 983, le jeune Othon III, âgé de 3 ans, est couronné roi d'Italie et de Germanie. Le 10 juillet 983, le pape Benoît VII décède. On élit alors sous le nom de Jean XIV l'évêque de Pavie, Pierre Canepovana, à qui Gerbert avait adressé la lettre gentille que je viens de vous citer. Heureusement pour Gerbert, ce fut un pape éphémère, très rapidement détrôné par un antipape. Coup dur. Le 7 décembre 983, l'empereur Othon II décède à 28 ans de la malaria. Il sera enterré au Vatican. Ne se sentant plus soutenu, Gerbert va alors quitter Bobbio, dont il reste abbé, et retourne à Reims, après un bref séjour à Paris, pour reprendre en 984 ses fonctions d'écolâtre. Il a alors 39 ans. Alors Gerbert, homme politique. À Reims, comme écolâtre, il aura un rayonnement européen et de nombreux élèves célèbres. J'ai parlé déjà de Richer de Saint-Denis et de Robert le Pieux. En politique, il sera fidèle à Adalbéron de Reims et aux Ottoniens. Il aurait aimé que soit rétabli un empire unique, comme au temps de Charlemagne. En France, il va s'opposer aux Carolingiens et soutenir Hugues Capet. Dans l'Empire, le jeune Othon III a 4 ans. Son cousin, le duc de Bavière, Henri le Querelleur, aimerait bien avoir la régence. Il cherchera à nouer une alliance avec Lothaire, le roi de France. Finalement, la gouvernance de l'Empire restera entre les mains des deux impératrices, Théophano, la mère d'Othon III, qui a à l'époque 24 ans, et Adélaïde de Bourgogne, la grand-mère d'Othon III, qui a 53 ans. À une époque, elle s'était disputée, mais Adélaïde de Bourgogne va se réconcilier avec sa bru pour éviter la tutelle d'Henri le Querelleur. Ça sera Théophano assisté d'Adélaïde qui vont régenter l'Empire en attendant que le jeune Othon III grandisse. Quant au royaume de France, Gerbert dit dans sa lettre 48 « Le roi Lothaire est à la tête de la France seulement en titre. Hugues n'a pas le titre, mais dirige en fait par son action. » En 985, Lothaire pense qu'Adalbéron joue double jeu. Il désire reprendre la Lorraine et cherche à se rapprocher du Capet. Mais Lothaire tombe malade à Laon et décède le 2 mars 986 à l'âge de 42 ans. Il sera inhumé près de son père Louis IV d'Outremer à Saint-Rémy de Reims. La basilique, pour ceux qui la connaissent, Saint-Rémy de Reims, qui est à la basilique actuelle, sera construite plus tard entre 1007 et 1049. Le fils de Lothaire, Louis V, a 19 ans. Sa mère, Emma, l'aide dans la direction des affaires. Gerbert, qui a 41 ans, pense qu'il va pouvoir s'occuper d'autre chose que de politique. Il se trompe. En effet, Louis V va s'opposer à Adalbéron de Reims et aux Ottoniens. Il va même accuser sa mère, Emma, d'être l'amante de l'évêque de Laon, Asselin. Ce dernier, d'ailleurs, Asselin, fut un élève de Gerbert. Et vous voyez comme les promotions se vont vite, car cet Asselin, qui va être évêque de Laon, il n'était que diacre en 977 quand il fut proposé au poste d'évêque. On va donc rapidement l'ordonner prêtre le 24 mars 977, puis une semaine après évêque le jour des rameaux, puis on l'intronise le jour de Pâques. Donc vous voyez, on est diacre et on se retrouve quelques semaines après évêque. Donc Gerbert va donc prévoir une entrevue à Compiègne pour réconcilier Louis V, Adalbéron et les Ottoniens. Avant cette entrevue, le 22 mai 987, pendant une chasse, le jeune Louis V tombe de cheval et décède. Il n'a pas d'héritier direct. Il a un oncle, Charles de Lorraine, le frère de Lothaire. Il faut donc réunir les grands féodaux et choisir un roi. La réunion a lieu à Senlis. On ne retient pas l'option Charles de Lorraine et on propose d'élire Hugues Capet, le cousin germain de Lothaire. Cela permettait la paix entre le royaume et l'empire, car effectivement Charles de Lorraine était plus belliqueux que Hugues Capet, qui lui désirait la paix entre la France et l'empire. Hugues Capet est donc couronné roi de France le 3 juillet 987 à Noyon par Adalbéron, archevêque de Reims. Le fils d'Hugues Capet, Robert II le Pieux, sera couronné à l'âge de 15 ans à la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans. Ce n'était pas cette cathédrale, celle-là c'est l'actuelle, à Noël 987. Cela permettait d'asseoir les dynasties. Effectivement, jusqu'à Philippe Auguste, les rois de France vont être couronnés du vivant de leur père, ce qui permettra vraiment de les assurer sur le trône de France. Gerbert, qui était déjà secrétaire d'Adalbéron, l'évêque de Laon, devient aussi secrétaire du Capet. Il connaissait bien tous les puissants et parlait plusieurs langues. Charles de Lorraine, évincé de la couronne, prépare sa revanche. Il va donc s'emparer par traîtrise de la ville de Laon en mai 988. Il avait d'ailleurs dans la place son neveu Arnoul, clerc, fils bâtard de Lothaire. Il va retenir captif l'évêque Asselin et la reine Emma. Malgré des négociations, Hugues Capet ne pourra reprendre la ville. Il lèvera le siège durant l'hiver 988. La carrière de Gerbert de Riac va prendre un nouveau tournant, car le 23 janvier 989, Adalbéron de Reims, dont les liens avec Gerbert étaient très forts, meurt après 19 années d'archiépiscopat à l'âge de 69 ans. Ses funérailles seront présidées par le roi Hugues Capet. Alors Gerbert est l'archevêché de Reims. L'archevêché est vacant. Les rois interviennent pour en nommer le titulaire. Hugues Capet doit sa couronne à Adalbéron, qui vient de décéder, et à Gerbert. L'historien Yves Cassier écrit « Gerbert, qui aurait été adoubé par Adalbéron, aurait hésité et différé sa réponse à Hugues Capet. » Ce n'est pas la position de Pierre Richer. L'archevêque de Reims, dont dépendent 10 évêchés, est comte et archichancelier du royaume, soit le deuxième personnage de l'État. Survient alors la candidature d'Arnoul de Reims, le fils bâtard de Lothaire, neveu de Charles de Lorraine. Âgé de 24 ans, soutenu par Asselin de Laon, il se propose d'abandonner le camp carolingien de Charles de Lorraine et de livrer la ville de Laon qu'il avait auparavant livrée à Charles de Lorraine. Gerbert est bien sûr opposé à cette candidature rivale. Mais Arnoul est un prince carolingien, et donc les nouveaux capétiens veulent donc se l'attacher. On va donc élire Arnoul, archevêque de Reims, en mars 989, Gerbert restant écolâtre et secrétaire de l'archevêché. Le roi, qui est quand même méfiant, impose à Arnoul un serment et un acte de fidélité. Je cite une de ses dernières phrases. « Si je m'écarte de mes promesses, que toute bénédiction se convertisse pour moi en malédiction, que mes jours soient abrégés, qu'un autre reçoive mon évêché et que mes amis se détournent de moi et deviennent à jamais mes ennemis. » En septembre 989, un des clercs d'Arnoul, Augier, ouvre les portes de Reims à Charles de Lorraine. Il fait prisonnier Gerbert et soi-disant Arnoul. Ce dernier, Arnoul, va donc retourner sa veste, renier son serment, prendre le parti de Charles de Lorraine et est donc libéré. Charles de Lorraine détient alors, contre Hugues Capet, Reims, Soissons et Laon, c'est-à-dire tout le cœur d'une partie du royaume de France. Gerbert de Riac va alors faire un faux pas, le sol de son parcours, et prendre quelque temps le parti carolingien. Malheureusement pour lui, en avril 990, Bruno de Langres, lors de l'entrevue de Roussy, le convainc de sortir de l'impasse et de rallier son camp naturel, celui d'Hugues Capet, ce qu'il fait. On fait donc appel au pape pour destituer Arnoul, qui avait manqué à son serment. Jean XV, pape depuis 985, reste silencieux. Peut-être avait-il reçu les partisans d'Arnoul. Le 30 mars 991, Hugues Capet reprend Laon, après une nouvelle trahison d'Asselin. Asselin avait juré la veille à Charles de Lorraine qu'il lui resterait fidèle. Bon. On va donc prendre Charles de Lorraine, l'envoyer captif et l'incarcérer à Orléans, où il va décéder à une date inconnue. Il faut donc juger Arnoul, l'archevêque félon. Ce fut le rôle du concile de l'abbaye Saint-Bâle de Verzy, qui réunit 13 évêques les 17 et 18 juin 991. La dernière abbaye de Saint-Bâle fut détruite à la Révolution en 1792. Gerbert était présent comme secrétaire. Le président du concile était Mgr Seguin de Sens, primat des Gaules. Arnoul fut défendu par trois abbés, Arbon de Fleury, Jean, l'écolâtre d'Auxerre et Rémulf de Senones. Ils déclarèrent que le concile n'avait aucun pouvoir pour juger, car il n'y avait pas de notification papale. Arnoul va spontanément confesser ses péchés, signer un acte de renonciation à l'archevêché de Reims et rejoindre son oncle Charles de Lorraine à la prison d'Orléans. Malgré le crime de lèse-majesté, il n'y eut pas de condamnation à mort. Les clercs ne voulaient pas participer à une sentence entraînant une effusion de sang. Sur l'invitation du roi, les évêques vont alors désigner Gerbert d'Auriac, archevêque de Reims. Âgé de 46 ans, ce fils de pâtre, entre guillemets, devient le deuxième personnage de l'État. Cette nomination ne sera pas acceptée par le pape Jean XV, d'où un long conflit entre Reims et Rome. Pendant ce temps, en Germanie, l'impératrice Théophano décède à l'âge de 31 ans. Vous voyez, c'est dans cette basilique que je vous ai montré déjà, Saint-Pantaléon de Cologne, où se trouve son tombeau. Adélaïde, âgée de 60 ans, va donc exercer seule la régence de son petit-fils Othon III, âgé de 11 ans. De Rome, excusez-moi, le pape envoie un légat, l'abbé Léon, enquêté sur Gerbert. Je vais boire une petite gorgée, si vous m'autorisez. Voilà. Donc de Rome, le pape envoie un légat, l'abbé Léon, enquêté sur Gerbert. Léon convoque un concile à Aix-la-Chapelle le 27 mars 992, le jour de Pâques. Les évêques ne s'y rendent pas. De son côté, Hugues Capet convoque le pape en terrain neutre à Grenoble. Le pape ne s'y rend pas. En Germanie, en septembre 994, Othon III, âgé de 14 ans, est déclaré majeur. De nouveau, le légat Léon tient concile à Mouzon le 2 juin 995. Hugues Capet ayant interdit aux évêques français de s'y rendre, seuls trois vont faire le déplacement. Malgré l'ordre royal, Gerbert s'y présente seul pour se défendre. Son plaidoyer bien construit est un art de la rhétorique. Aucune sanction définitive n'est prononcée par le légat pontifical, sauf une excommunication d'un mois. Donc pendant un mois, il ne pourra pas communier. Gerbert d'Auriac va alors publier les actes du concile de Saint-Bâle qui a destitué Arnoul et se justifier en utilisant tous les dossiers du droit canon qu'il connaît parfaitement. Léon va rencontrer à Reims Arnoul, extrait de sa prison d'Orléans, pour un nouveau concile. De nouveau, Gerbert se défend. Aucune décision ne ressort de ce concile et Arnoul retourne en prison. En avril 996, le pape Jean XV décède. Othon III, qui est à Pavie, Gerbert est du voyage, fait élire le jeune Brunon de Carincy, âgé de 23 ans, sous le nom de Grégoire V. Le 21 mai 996, le nouveau pape couronne Othon III empereur et Gerbert devient secrétaire d'Othon III. Un synode réuni le lendemain ne résout pas le problème de l'archevêché de Reims. Le 24 octobre 996, le roi de France, Hugues Capet, décède à l'âge de 56 ans. C'est un coup dur pour Gerbert, qui s'était brouillé avec son fils Robert II le Pieux à propos de son second mariage. Grégoire V va présider à Pavie un nouveau synode, mais Gerbert se sent abandonné. Il écrit beaucoup à ses amis du monastère d'Aurillac et à l'impératrice Adélaïde de Bourgogne, âgée de 65 ans. Le pape fait alors savoir au roi de France, Robert de Lepieux, qu'il est prêt à reconnaître son second mariage s'il rétablit Arnoul sur le siège épiscopal de Reims. Gerbert d'Aurillac ne veut pas de schisme dans l'Église. Il se met donc au service de l'empereur Othon III. Il ne retourne pas à Reims, dont il reste archevêque, jusqu'à son remplacement par Arnoul. Il reste abbé de Bobbio en titre. Reims va l'oublier, dit Pierre Richer, seule une modeste rue honore l'écolâtre. Gerbert exilé dans l'Empire. En 997, Gerbert est âgé de 51 ans. Il va vivre en Allemagne et en Italie pendant 2 ans. Il reste secrétaire d'Othon III et reprend ses travaux, lettres, enseignements, l'enseignement oral, recherche scientifique. En France, Arnoul est libéré en 997 et reprend son évêché en 998. Gerbert passe le Noël 997 à Pavie avec l'empereur Othon III et le pape Grégoire V. Le pape se réinstalle à Rome au Latran et l'empereur, qui est aussi roi d'Italie, sur le Palatin. Alors, il faut quand même trouver un poste pour Gerbert, qui est un fidèle. Donc, une bulle papale du 28 avril 998 nomme Gerbert d'Aurillac archevêque de Ravenne, la deuxième ville d'Italie. Il est alors à la tête d'une véritable principauté et touche toujours les revenus de l'abbaye de Bobbio. C'est là qu'il commence à lutter contre la simonie, le trafic des choses saintes, la vente ou l'achat des biens spirituels et des charges ecclésiastiques. Le pape Grégoire V, qui avait laissé espérer au roi Robert le Pieux l'acceptation de son mariage, le condamne et lui demande de se séparer de Berthe et de faire pénitence pendant 7 ans. Gerbert, lui, avait coupé les ponts avec son ancien élève, Robert II le Pieux. Le 18 février 999 survient le dernier tournant dans la vie de Gerbert d'Aurillac, il a 53 ans. Le pape Grégoire V décède à Rome à l'âge de 29 ans. Othon III arrive à Rome le 29 mars, donc assez rapidement, car il veut éviter l'élection d'un antipape. Et le 2 avril 999, Gerbert d'Aurillac est élu pape. On pourrait dire qu'il est âgé, mais il est très actif. Othon III lui propose de prendre le nom de Sylvestre II. Le premier Sylvestre, Saint Sylvestre, que nous fêtons en fin d'année, avait baptisé Constantin, le premier empereur chrétien, durant son pontificat de 314 à 335. Gerbert, qui avait lutté toute sa vie contre la toute-puissance de la papauté, devient pape. Il est consacré le 9 avril 999 dans la basilique Saint-Pierre. Sylvestre II est pape, évêque de Rome, métropolite d'une partie de l'Italie, patriarche d'Occident. Il réside au palais du Latran. Il s'intègre bien à l'entourage et à la bureaucratie pontificale. Il va gouverner son État selon ses principes philosophiques. Comme je l'ai dit, la politique est formée sur l'honnête et l'utile. Il va collaborer avec Othon III. Il va poursuivre sa lutte contre la simonie. Il va dénoncer la donation de Constantin, qui est le faux le plus célèbre de l'histoire de la papauté. C'est le fact new le plus important de la papauté. Que dit cette donation de Saint-Quentin ? Constantin aurait donné au successeur de Pierre, Sylvestre Ier, la primauté sur les églises d'Orient, Antioche, Alexandrie, Jérusalem, Constantinople, les églises du Latran, de Saint-Pierre, de Saint-Paul hors les murs, des biens de certaines provinces en Judée, Grèce, Asie, Thrace, Afrique, Italie, dans les îles, le palais du Latran, les insignes impériaux, etc. Tout ceci n'était qu'une légende hagiographique, religieuse, une légende de fondation. Le 15 avril 999, Sylvestre II va faire preuve, selon Pierre Richer, d'élégance, mais plutôt un petit peu de perfidie. En effet, il pardonne à Arnoul, et au nom de la papauté, il le rétablit complètement dans sa dignité première d'archevêque de Reims, alors qu'il avait lutté contre lui. Et puis, il nomme Léon, celui qui fut légat du pape durant l'affaire de Reims, archevêque de Ravenne. L'archevêché était libre, puisque Gerbert venait d'être élu pape. Sylvestre II, bien sûr, ne va pas garder la charge de l'abbaye de Bobbio. Le 16 décembre 999 décède Adélaïde de Bourgogne, l'impératrice, qui était la femme d'Othon Ier, à l'âge de 68 ans. Elle fut l'épouse d'Othon Ier, la mère d'Othon II et la grand-mère de l'empereur régnant Othon III, qui fut élève de Gerbert d'Auriac. Il parle longuement, Gerbert, de ce décès dans sa lettre 74. Adélaïde de Bourgogne, qui a eu à gérer tous ses problèmes de famille, a été canonisée en 1096 et on prie Sainte Adélaïde de Bourgogne pour résoudre les problèmes familiaux. En France, après 999, j'avais déjà parlé de lui, l'évêque Asselin de Laon, j'ai longtemps parlé de cet évêque politicien qui retourne régulièrement sa veste, Asselin va donc se révolter contre le roi Robert II le Pieux. Et il tente d'emprisonner Arnoul, l'archevêque de Reims. Il va donc être convoqué à Rome par Sylvestre II. Et quand un pape écrit, il commence par donner sa bénédiction. Or, il commence sa lettre ainsi. « Ne t'étonne pas que j'omette le salut et la bénédiction apostolique. Bien que tu portes le nom d'évêque, ta conduite montre que tu as cessé d'être un homme. Si la foi unit l'homme à Dieu, l'infidélité réduit l'être de raison à l'état de brute. » Asselin est-il venu à Rome? Nous ne le savons pas. Par la suite, Asselin restera évêque de Laon. Il devint, dit-on, un bon évêque passé l'an 1000. Il va bien s'occuper de la cathédrale et de l'abbaye Saint-Vincent. Évêque depuis Pâques 977, il décédera en 1031 à 80 ans, après 54 ans d'épiscopat. Son corps sera inhumé à l'abbaye Saint-Vincent, lieu de sépulture des évêques de Laon, depuis la charte de 961, confirmée par Luther en 975. De décembre 999 à juin 1000, Othon III s'absente de Rome. Il fait rechercher le tombeau de Charlemagne à Aix-la-Chapelle. Après avoir creusé sous la nef, dit-on, il aurait eu un contact direct avec le corps momifié de l'empereur assis, voyez l'image, là, et aurait pris des reliques, des dents, des ongles, la croix d'or et l'évangéliaire. Sylvestre II n'aurait pas été au courant de cette cérémonie macabre qu'il n'aurait pas beaucoup appréciée, d'après Pierre Richer. Aujourd'hui ne persiste que la châsse de Charlemagne avec des reliques de l'empereur qui a été fermé le 27 juillet 1205 et qui se trouve dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle. Sylvestre II va s'impliquer dans les affaires de deux États, la Pologne et la Hongrie. Il va créer en Pologne une église indépendante de l'église de Germanie. Pas loin de nous, le 15 juin 2000, le pape Jean-Paul II célébrera à Cracovie le millénaire de l'érection de Cracovie au rang d'évêché et il citera dans son homélie le pape Sylvestre II. En Hongrie, il va créer une église nationale avec 10 évêchés. Astrique, envoyé par le duc de Hongrie, Étienne, va lui ramener une couronne donnée par Sylvestre II et faire d'Étienne Ier, Saint-Étienne, le premier roi de Hongrie. Étienne Ier fut couronné le 15 août 1001. La couronne qui se trouve aujourd'hui dans la salle de la coupole du Parlement de Budapest et que vous voyez n'est qu'une copie byzantine réalisée un siècle plus tard, au XIe siècle, à partir de la couronne d'origine. De février 1001 à janvier 1002, Othon III et Sylvestre II sont le plus souvent à Ravenne. En effet, Othon III avait quitté Rome où il se sentait en danger. Il retrouvera Sylvestre II le 4 avril 1001 à la basilique Sainte-Apollinaire, qui est d'époque et qui est magnifique avec ses fresques que vous avez derrière moi. Le 24 janvier 1002, alors qu'Othon III est au Castello di Paterno, près du mont Soracte que vous voyez, il décède à l'âge de 22 ans au cours d'une maladie fébrile dans les bras d'Héribert, l'archevêque de Cologne. Son corps sera inhumé à Aix-la-Chapelle le 4 avril 1002. Sans héritier, après Othon I, Othon II, Othon III, la couronne du Saint-Empire germanique passera à son cousin Henri II. Sylvestre II va alors retourner à Rome, au palais du Latran. Le 3 mai 1003, au cours d'un office à Rome, à l'église Sainte-Croix de Jérusalem, Sylvestre II est victime d'un malaise. Il décède le 12 mai 1003, à l'âge d'environ 58 ans. En tout cas, entre 53 et 62 ans. Telle fut la vie de l'humble moine Gerbert de Riac, le pape de l'an 1000. Il fut inhumé au Latran. Après l'incendie du XIVe siècle, son tombeau fut transporté avec les restes de tous les papes inhumés sous le portique de la basilique. À l'intérieur, on trouve l'épitaphe originale du pape Serge IV au niveau de la deuxième colonne à droite dans la nef. Comme vous ne lisez pas le latin, que vous êtes loin et que moi je le lis parfaitement, je vous lis l'épitaphe. « Ce lieu où sont ensevelis les restes de Gerbert le rendra au Seigneur quand le son de la trompette annoncera sa venue. La Vierge très savante et Rome la tête du monde l'avait rendu célèbre dans l'univers. Gerbert, originaire de France, mérita d'abord le siège de Reims, métropole de sa patrie, puis il mérita de gouverner l'importante et noble église de Ravenne et il devint puissant. Un an plus tard, il prit, en changeant de nom, Sylvestre, le siège de Rome pour devenir le pasteur de l'univers. Le César Othon III, auquel il fut toujours fidèle et dévoué, lui offrit cette église. Ils illustrent l'un et l'autre leur temps par l'éclat de leur sagesse. Le siècle se réjouit, le crime est écrasé. Il était comme le portier des cieux, celui qui occupait son siège après avoir trois fois changé de place. Il remplissait depuis un bon lustre les fonctions de pierre lorsque la mort vint le frapper. Le monde fut glacé d'effroi, la paix disparut, l'église triomphante chancela, elle oublia le repos. Le pontife Sergius, donc Serge IV, son successeur, ému d'un tendre sentiment de piété, a élevé ce tombeau à son ami. Qui que tu sois qui tourne tes regards vers cette tombe, dis, Seigneur Tout-Puissant, ayez pitié de lui, il mourut l'an de l'incarnation du Seigneur, 1003, le 12e jour du mois de mai. Alors, revenons à notre question de départ et concluons qui fut Gerbert. Un homme d'église. Il fut oblat, moine, archevêque et pape. Beaucoup de lettres nous ont fait connaître son activité d'évêque. Il a toujours défendu les intérêts de l'église. Il a lutté contre la simonie. Il a préféré quitter Reims plutôt que de créer un schisme. Il fut peut-être l'initiateur du gallicanisme, une église de France gouvernée par son souverain et son clergé, avec le minimum d'ingérence du Saint-Siège. Il fut aussi un homme de culture. Il connaissait autant les œuvres profanes que les textes religieux. Il avait une grande connaissance de la culture antique et latine, même s'il ne lisait pas le grec. Ses lettres sont des modèles épistolaires. Avec une parfaite connaissance du trivium et du quadrivium, il fut un excellent écolâtre, il avait une vocation de professeur. Il fut un homme de science. En mathématiques, il va introduire en Occident les chiffres arabes. Il va écrire des traités sur les opérations de multiplication et de division, des traités sur les axiomes, les théorèmes du point, la ligne droite, les angles, les triangles, les surfaces et les volumes des sphères. En musique, il va étudier les sons et ses divisions, ton, demi-ton, dièse, bémol. Il va construire un orgue. Il fut un homme politique. Il jouera un rôle important dans les affaires du royaume de France et dans le changement de dynastie. Il interviendra dans les affaires de l'Empire, en Germanie et en Italie. Il créera les évêchés de Pologne et de Hongrie. Il aura un rôle majeur dans la mise en place du royaume de Hongrie. Homme d'église, homme de culture, homme de science et homme politique, il fut d'une grande fidélité, et cela malgré une réelle ambition. Il fut fidèle entre ses amis en religion, je citerai Raymond de Lavaur et Adalbéron de Reims, envers Hugues Capet et envers la dynastie impériale des Othons. Ainsi donc, si Gerbert de Riac fut tout cela, il aimait surtout le savoir, quelle que soit l'origine religieuse du savoir, même si ce savoir venait de chez les Arabes. C'était un humaniste du Moyen-Âge, un munamiste avant l'heure. Il fut une figure majeure de l'Occident de l'an 1000. Alors, vous et moi, nous avons été à l'école avant l'ère des calculatrices, nous savons toujours faire des multiplications et des divisions. Alors demain, posez de côté votre calculatrice, faites sur papier une multiplication, vous aurez alors une pensée pour un homme remarquable qui vécut il y a plus de 1000 ans. Je vous remercie de votre attention.
Nous avons appris beaucoup de choses. C'était un sujet extrêmement difficile. Il fallait s'y retrouver. Vous nous avez conduits d'une façon assez claire et vous avez surtout su faire une synthèse pour nous montrer ce qui était important dans la vie de Gerbert. Moi, j'ai retenu la ligne droite, c'est-à-dire l'honnêteté et l'utilité. La ligne droite, c'est bien ça.
Oui.
Et ben voilà. Donc, merci infiniment. S'il y a, j'espère que vous n'êtes pas trop assommé pour la suite. Enfin, vous avez vu les liens de la politique et de l'Église à l'époque. Hein. Ça a bien changé, mais franchement, c'est intéressant. Hein. Et puis, c'est peut-être qu'il est effectivement à l'origine du gallicanisme, ce qui est important, ce qui a toujours été, après ce qu'ont toujours fait les rois de France. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions qui seraient posées par un historien ? Ou une historienne, ou même quelqu'un qui connaît cette période. Mireille, une question ?
J'aurais voulu savoir la position de Gerbert au moment du passage à l'an 1000, puisqu'on a tellement dit que ce passage à l'an 1000 était... Oui, peut-être.
Alors, on a dit que 1000 ans après la naissance ou la mort du Christ, il allait se passer des choses extraordinaires. Bon, d'abord, en l'an 1000... Très peu de personnes savaient qu'on était en l'an 1000.
Eh ben voilà.
On a commencé vers l'an 1000, c'est d'ailleurs pendant le règne de Lothaire, à quand même bien fixer les dates des années. Je rappelle que c'est un moine, Denis le Petit, Dionysos Exiguus, qui, en quelque sorte, est un petit peu, qui a vécu vers les années 400-500, qui est un petit peu l'initiateur de notre calendrier. Hein ? C'est-à-dire qu'il a voulu calculer pour plusieurs années la date de Pâques, hein, car c'est une fête mobile qui dépend de du printemps. Quoi. Donc, il a essayé de fixer cette date, et puis ensuite, il est revenu en arrière pour fixer un point de départ. Et il fallait qu'il parte de quelque chose. Donc, il est parti de l'incarnation du Seigneur. Alors, comme à l'époque, il n'y a pas de chiffres arabes, il n'y a que des chiffres romains, il n'y a pas d'année zéro historique. Elle n'existe pas. Il y a une année moins 1 qui correspond dans l'année moins 1. Il y a l'incarnation du Seigneur, le 25 mars, et 9 mois après, le 25 décembre, la naissance du Seigneur. Et après cet an moins 1, il y a l'année 1 ab incarnatione Christi, l'année 1 après l'incarnation du Seigneur. Donc voici comment les choses ont démarré. On sait en plus qu'il y a une erreur, hein, puisque le roi Hérode est mort durant le printemps de l'an moins 4, et donc Jésus n'a pas pu naître le 25 décembre de l'an moins 1. Il est probablement né entre moins 5 ou en moins 5 ou en moins 6. Donc Jésus de Nazareth est né en moins 6 avant Jésus-Christ. Enfin, bon, c'est une façon de... Donc, ça a été fixé à ce moment-là. Et c'est progressivement, on a commencé à voir des bulles, des textes du pape vers l'année 700, 750, etc. Mais au niveau, par exemple, en l'an 1000, beaucoup de gens ignoraient qu'on était en l'an 1000. Et on annonçait lors des offices l'année. C'est-à-dire qu'on allait dire, par exemple, suivant la liturgie, nous sommes, par exemple, le cinquième dimanche avant la Pentecôte de l'année de l'incarnation du Seigneur. Donc, on l'annonçait aux gens parce qu'il n'y avait que un certain nombre de personnes qui savaient l'année. Donc, cette histoire de peur de l'an 1000, ça date même après la Renaissance. C'est quelque chose qui est apparu, mais qui, à l'époque, n'a pas du tout existé. Les gens n'avaient pas peur de l'an 1000. La plupart des gens ne savaient pas, d'ailleurs, qu'on était en l'an 1000.
Ouais. Oui, en l'an 2000, ils ont eu peur aussi, oui. Ils se sont dit, tous les ordinateurs vont s'arrêter, ça va être la catastrophe. Bon, eh bien, oui.
Il y a que les questions de, s'il y a des mathématiques pointues, là, je répondrai pas, mais voilà.
Une question d'architecture. À partir de l'an 1000, ou même peut-être avant, nos territoires, nos pays se sont couverts d'églises romanes ou pré-romanes. Quelle était l'intervention de Sylvestre II dans ce phénomène?
Je ne sais pas. On était à l'époque de la construction des églises romanes. Je pense qu'il a continué à laisser libre cours à l'architecture de l'époque. Il n'y a pas eu de modification. Hein, les premières. Je ne suis pas du tout un spécialiste d'architecture, mais par exemple la cathédrale de Reims a été construite entre 1225, je crois, et 1241, ce qui est assez court. Je sais que la cathédrale de Laon a été construite en une période très courte, puisque ça fait à peine une vingtaine d'années, alors que certaines cathédrales ont une durée de construction très longue, hein, sur des tas d'époques, hein, comme la cathédrale de Milan, elle a été finie au XIXe siècle, alors qu'elle a été commencée à l'époque gothique. Donc je pense que l'architecture se développait. Alors il y a des... on trouve... J'ai présenté l'église Saint-Pantaléon de Cologne, parce qu'elle devait ressembler vraisemblablement à la cathédrale de Reims, et parce que je crois que les architectes échangeaient beaucoup, et on devait trouver sûrement dans certains monuments des ressemblances, comme il y a eu après à l'époque gothique, où les mêmes architectes pouvaient avoir travaillé sur un premier chantier après avoir travaillé sur un second, en sachant aussi que quand une cathédrale était démarrée, quelquefois celui qui la finissait n'était pas celui qui l'avait commencé, surtout si ça se fait à l'aise. Mais j'ai pas lu qu'il soit intervenu dans une modification architecturale particulière.
Eh bien, nous finirons par en saluant votre fidélité à Sarlat et aux amis de Sarlat, et en vous disant que nous souhaitons vivement vous voir l'année prochaine, à la même époque,
peut-être
pour une conférence, soit de vous, soit de votre épouse, qui a elle aussi dans sa gibecière de quoi agrémenter les conférences de Sarlat. Encore une fois, merci beaucoup, c'était très intéressant, sur un sujet difficile, et eh bien, j'espère à l'année prochaine.
Merci. Merci à vous.